Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Dictionnaire de paléographie française de Nicolas Buat est un ouvrage de référence destiné à faciliter l'approche des documents manuscrits français produits entre le XVIIIe et le XVIIIe siècle. Il relève à la fois du guide d'initiation, du dictionnaire visuel et de l'outil de consultation pour la lecture des archives. Son enjeu central n'est pas seulement de déchiffrer une écriture difficile, il s'agit de comprendre les conventions graphiques, les abréviations, le vocabulaire et les formes documentaires qui conditionnent le sens des textes anciens. La période couverte correspond à une longue transformation des écritures administratives, judiciaires, notariales et privées, avant leur stabilisation progressive à l'époque moderne. L'ouvrage répond donc à une difficulté concrète rencontrée par les généalogistes. Étudiants, historiens et lecteurs d'archives, reconnaître des mots dont les lettres, les coupures et l'orthographe diffèrent fortement des usages actuels, par son organisation dictionnérique et sa vocation pédagogique. Il propose une méthode d'accès progressive à des sources souvent intimidantes mais essentielles à la connaissance du passé. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, lire une écriture ancienne suppose d'identifier des formes graphiques, non de deviner des mots. La paléographie française ne se réduit pas à une transcription lettre à lettre. Dans les manuscrits des 15e-18e siècle, une même lettre peut prendre des silhouettes variables selon la main du scribe, sa position dans le mot ou la rapidité de l'exécution. Inversement, des lettres différentes peuvent sembler identiques à un lecteur non entraîné. Un dictionnaire de paléographie est utile parce qu'il déplace l'attention de la reconnaissance immédiate vers la comparaison des formes. Le lecteur apprend à isoler des éléments relativement stables « ampe »,« jambage », »,« boucle », »,« liaison », »,« attaque » et « terminaison ». Cette démarche rend possible une lecture fondée sur des indices cumulés plutôt que sur une intuition fragile. La difficulté augmente lorsque l'écriture est cursive, les lettres se soudent. Certains traits sont omis et le tracé suit davantage le geste de la main que le modèle typographique moderne. L'ouvrage de Nicolas Buat s'inscrit dans cette logique d'apprentissage visuel. Il rappelle implicitement qu'un mot illisible ne doit pas être interprété isolément. Il faut confronter plusieurs occurrences d'une même lettre dans le document, tenir compte du mot voisin et vérifier si l'hypothèse obtenue est compatible avec le contexte. La rigueur paléographique protège ainsi contre les contresens qui peuvent modifier une date, un nom, un lieu ou la nature d'un acte. Deuxièmement, les abréviations constituent un système documentaire indispensable à restituer avec prudence. Les textes anciens emploient massivement des abréviations, surtout dans les actes où la rapidité d'écriture, l'économie d'espace et les habitudes professionnelles jouent un rôle important. Elles ne sont pas de simples anomalies à supprimer, elles obéissent à des procédés reconnaissables, tels que la suspension d'un mot, la contraction de lettres internes ou l'usage de signes indiquant des lettres absentes. Leur interprétation exige donc une connaissance des conventions, mais aussi une attention au genre du document. Une formule notariale, une mention paroissiale ou une pièce judiciaire peuvent répéter des termes et des tournures qui facilitent la restitution. Le dictionnaire offre un appui pour passer du signe abrégé à une lecture développée sans transformer arbitrairement le texte. Cette distinction est décisive. Transcrire consiste à rendre ce qui est effectivement écrit selon des règles annoncées. Développer une abréviation revient à formuler une hypothèse raisonnée sur ce qu'elle représente. Le lecteur doit pouvoir conserver la trace de cette opération, notamment lorsque plusieurs développements restent possibles. La prudence est particulièrement nécessaire pour les noms propres et les mots techniques, qui ne se déduisent pas toujours d'une formule attendue. En apprenant à reconnaître les mécanismes d'abréviation, on gagne en vitesse de lecture, mais surtout en fiabilité. La paléographie devient alors une discipline de contrôle des interprétations, et non une simple compétence de déchiffrement. Troisièmement, l'orthographe flottante impose de rechercher les mots par leur variante historique, entre le 15e et le 18e siècle. L'orthographe française demeure beaucoup moins uniformisée qu'aujourd'hui. Les graphies peuvent varier d'un auteur à l'autre, d'une région à l'autre, voire au sein d'un même registre. Des lettres aujourd'hui, muettes, peuvent être davantage visibles dans l'écriture. Certaines alternances graphiques sont fréquentes. La séparation des mots n'est pas toujours celle que le lecteur contemporain attend. Cette variation ne doit pas être confondue avec une erreur ou avec l'ignorance du scripteur. Elle renseigne aussi sur les usages linguistiques et administratifs d'une époque. La forme dictionnérique de l'ouvrage est particulièrement adaptée à ce problème, car elle aide le lecteur à relier une forme rencontrée dans une source à un mot identifiable en français moderne. L'opération demande toutefois une méthode repérer les lettres certaines, envisager les substitutions graphiques courantes, puis tester le résultat dans la phrase et dans le type d'acte consulté. Cette démarche est plus sûre que la correction immédiate vers une orthographe actuelle. Elle évite par exemple de moderniser abusivement un terme juridique, fiscal ou social dont la forme exacte porte une information historique. Le livre invite ainsi à distinguer compréhension et normalisation. On peut comprendre un mot sans effacer sa graphie originale. Cette nuance est essentielle pour produire des transcriptions exploitables par d'autres lecteurs et respectueuses de la source. Quatrièmement, le sens d'un manuscrit dépend aussi de son vocabulaire administratif, juridique et social. Déchiffrer les lettres d'un document ne suffit pas nécessairement à en saisir le sens. Une part importante des archives françaises anciennes est produite par des institutions notaires, juridictions, administrations, paroisses ou autorités locales. Ces écrits emploient un vocabulaire spécialisé, des formules répétitives et des catégories qui ne correspondent pas toujours aux réalités contemporaines. Un mot apparemment familier peut avoir une portée juridique ou sociale précise. Un terme devenu rare peut désigner une fonction, une obligation, un statut ou une procédure. Le dictionnaire de paléographie française répond à cette seconde difficulté en associant le travail sur l'écriture à l'accès au lexique. Cette articulation est l'une de ses utilités majeures. Une lecture graphiquement correcte, mais sémantiquement imprécise, peut conduire à une mauvaise interprétation du document. Le contexte demeure le principal instrument de vérification. La date, le lieu, l'auteur, le destinataire et la nature de l'acte indiquent quels sens sont plausibles. Dans un contrat, une formule peut structurer les droits et engagements. Dans un registre, elle peut signaler une opération administrative. Dans une correspondance, elle peut relever de la politesse ou de l'usage privé. Le lecteur est donc conduit à faire dialoguer paléographie et histoire. L'ouvrage ne remplace pas les dictionnaires historiques spécialisés ni l'étude des institutions. Mais il fournit une porte d'entrée solide vers cette compréhension contextualisée des sources. En dernier lieu, une consultation efficace combine observation du document, comparaison et vérification contextuelle. L'intérêt pratique d'un dictionnaire de paléographie apparaît pleinement lorsqu'il est utilisé comme un instrument de travail plutôt que comme une solution automatique. Face à un passage difficile, une méthode efficace commence par une transcription provisoire des lettres certaines. Il faut ensuite comparer les graphies ambiguës avec d'autres mots du même document. La main qui écrit fournit souvent elle-même la meilleure clé de lecture. La consultation du dictionnaire permet alors d'identifier une forme, une abréviation ou une variante orthographique envisageable. Enfin, l'hypothèse doit être éprouvée. Produit-elle une phrase grammaticalement cohérente? Correspond-elle à la formule habituelle du document? Est-elle compatible avec les informations déjà établies, comme les noms, dates, lieux ou fonctions? Cette succession d'étapes réduit le risque de lire ce que l'on s'attend à trouver. Elle est particulièrement pertinente en généalogie, où une lettre mal identifiée peut créer une filiation erronée, et en recherche historique, où un terme mal compris peut fausser l'analyse d'une source. Le livre favorise aussi une autonomie progressive. Au début, le lecteur dépend de l'outil pour reconnaître chaque difficulté. Avec l'habitude, il constitue un répertoire mental de formes et de conventions. Le dictionnaire conserve néanmoins son rôle de contrôle, notamment devant les écritures très cursives, les documents détériorés ou les vocabulaires inhabituels. Cette pratique patiente fait de la lecture des archives une enquête vérifiable. En conclusion, le dictionnaire de paléographie française s'adresse en priorité aux personnes qui souhaitent consulter directement des archives françaises sans disposer d'une formation spécialisée. Approfondis généalogistes, étudiants, enseignants, amateurs d'histoire locale, archivistes débutants et chercheurs travaillant ponctuellement sur des manuscrits. Il sera particulièrement utile aux lecteurs confrontés à des actes notariés, registres, pièces administratives, correspondances ou documents judiciaires des 15e-18e siècles. Son bénéfice pratique est clair, il aide à ralentir la lecture au bon endroit, à reconnaître les difficultés récurrentes et à fonder une transcription sur des comparaisons plutôt que sur des suppositions. Son apport intellectuel est tout aussi important, car il montre que l'écriture ancienne, l'orthographe et le vocabulaire forment un ensemble historique. Comprendre un document implique de respecter ses conventions propres et de distinguer ce qui est lisible, ce qui est développé et ce qui demeure incertain, par rapport à un simple manuel de déchiffrage ou à une reproduction isolée d'écriture. L'ouvrage se distingue par son orientation dictionnérique, il accompagne la consultation de problèmes concrets rencontrés dans les sources. Il ne dispense pas d'examiner le document dans son contexte ni de recourir, au besoin, à des outils linguistiques ou historiques complémentaires. Mais il fournit un cadre de travail immédiatement mobilisable. C'est précisément cette alliance entre apprentissage des formes. Attention aux abréviations et accès au sens des mots qui en fait un guide particulièrement pertinent pour passer de l'image manuscrite à une lecture argumentée. Si vous souhaitez soutenir Nicolas Buat, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.